Radio Campus et Radio Boomerang sont partenaires de la CIMAD pour le festival Migrant Scène. Des expositions, de la littérature, des spectacles, mais aussi bien sûr une réflexion autour du thème des migrants. Du 14 au 30 novembre à Lille, le festival Migrant Scène avec ses événements, notamment l'émission du 27 novembre qui sera réalisée du biplan en direct sur nos deux antennes Radio Boomerang, Radio Campus entre 21h30 et 23h. Une table ronde au biplan donc qui fait suite à un spectacle que nous allons bien sûr vous présenter aujourd'hui dans le cadre du magazine Quoi de Neuf. Voilà donc ce moment, nous allons passer ensemble avec Nathanaël Caffiot, donc qui est délégué régional de la CIMAD. Bonjour Nathanaël.
Bonjour.
Avec Camille Six et Madeleine Géroudet qui sont bénévoles à la CIMAD et membres de l'équipe organisatrice de Migrants Scène. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voilà donc tout d'abord on peut rappeler les grandes missions de la CIMAD, Nathanaël, et puis aussi voir en quoi ce festival qui est je pense national se répartit un peu partout en région et notamment à Lille et voir un peu dans le détail de la programmation.
Donc la CIMAD c'est une organisation qui réunit des bénévoles et des salariés et qui sont tous des personnes militantes qui souhaitent agir en solidarité avec les personnes étrangères. C'est des personnes donc, qui se mettent ensemble parce qu'elles refusent que l'étranger soit désigné comme le perpétuel bouc émissaire, qu'il soit toujours dénoncé comme le problème, comme la menace, etc. Elles souhaitent lutter contre l'obsession sécuritaire dominante qui aujourd'hui interdit de penser, d'avoir n'importe quelle réflexion sur la mobilité des êtres humains, d'avoir un angle différent sur ces questions. Donc il y a diverses actions qui sont menées par la CIMAD. Il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent dans des permanences juridiques, des permanences qu'en Nord-Picardie, on mène à Lille, à Maubeuge, à Valenciennes, à Tourcoing, à Amiens et à Soissons, et qui reçoivent près de 4000 personnes dans la région et 2500 à Lille. Les bénévoles, lors de ces permanences, vont informer, vont orienter, vont appuyer les personnes étrangères qui viennent aux permanences dans leur démarche et dans leur recours auprès des juridictions. D'ailleurs, si des personnes souhaitent obtenir des informations sur nos permanences, elles peuvent aller sur notre site web pour en savoir un peu plus. Par ailleurs, on organise aussi des cours de français, puisque l'apprentissage de la langue est indispensable pour une bonne intégration lorsqu'on arrive dans un nouveau pays. Et on mène des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des parlementaires, pour que nos valeurs, nos positionnements soient portés, soient entendus au plus haut niveau. Mais malgré ce travail de plaidoyer, on constate un durcissement important des lois et du droit des étrangers. Et donc on pense qu'il est indispensable de mener également des actions de sensibilisation auprès d'un public plus large, tels que des collégiens, des lycéens, des universitaires ou de toute personne dans la rue ou ailleurs. Et le Festival du Migrant Scène est à ce niveau-là un moment très fort où on essaye de toucher des personnes très différentes sur la thématique de la migration.
Voilà, donc on peut peut-être aborder la question de la liberté de circuler. Elle est relativement restreinte, de plus en plus restreinte. Vous sentez une pression énorme ?
Aujourd'hui, il y a des politiques de fermeture qui sont mises en place, que ce soit en France ou en Europe, et ceci depuis les années 70-80, et elles sont de plus en plus développées. Ces politiques, elles sont synonymes pour les étrangers d'humiliation, de soupçon, elles sont synonymes de précarité, d'exploitation. Il y a de plus en plus d'enfermement des personnes, d'expulsions qui vont briser leur vie. Et donc c'est contre ça que la CIMAD essaye de se battre.
C'est assez contradictoire avec l'idée de la mobilité des jeunes. On essaye d'inciter les jeunes à justement aller à l'étranger, voir comment ça se passe, etc. Et par ailleurs, les étrangers sont moins en moins bienvenus. Dans les étrangers, il y a des gens indésirables, lesquels on vise au travers de ces mesures restrictives.
Alors c'est vrai que aujourd'hui dans nos pays, on essaye de nous dire qu'il est bon de pouvoir aller voir ailleurs, d'aller découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais c'est des choses qui sont absolument interdites pour la très grande majorité de la population mondiale. Aujourd'hui, les personnes venant de pays d'Afrique, de pays du Moyen-Orient, de pays d'Asie, n'ont aucune possibilité de venir dans les pays européens. La politique des visas est complètement fermée. Elle n'est ouverte qu'aux touristes qui peuvent dépenser des devises dans nos pays. Et elle est fermée pour l'ensemble des personnes qui vivent dans des conditions plus difficiles dans leur pays.
Cette protection des frontières de la France, puisqu'on est en France, est-ce qu'elle est la même dans d'autres pays d'Europe, dans les autres pays d'Europe, et peut-être même dans les pays étrangers? Est-ce qu'à l'étranger, c'est aussi difficile de migrer?
Alors aujourd'hui, en Europe, la politique migratoire n'est pas réellement une politique commune. En revanche, elle est mise en place de la même manière par les différents pays européens. Il y a d'ailleurs à ce niveau-là une agence qui s'appelle l'agence Frontex, qui est là pour aider les États à contrôler les frontières extérieures. Cette agence est une agence qui a une très forte autonomie et qui utilise des moyens militaires qui vont être mis à disposition des États européens, à disposition de cette agence, pour qu'elle mette en œuvre ses politiques de fermeture des frontières. Elle peut signer des accords avec des États tiers. Elle l'a mis, par exemple, en place des lieux d'enfermement, des centres de rétention en Libye, en Mauritanie, en Algérie. Cette agence peut organiser des vols de retour conjoints à plusieurs États membres de l'Union européenne. Elle peut initier des opérations terrestres et maritimes de contrôle des frontières. Et pour tout cela, elle utilise des moyens militaires. L'Europe s'est mise dans une position de guerre contre les migrants. Ailleurs dans le monde, on retrouve ce genre de politique. On peut retrouver ce genre de politique en Australie, où aujourd'hui les autorités australiennes payent certains États, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour que des centres de rétention soient implantés sur cet État-là, ou payent le Cambodge pour transférer des réfugiés qui ont été reconnus réfugiés en Australie sur le territoire cambodgien. Et on retrouve également ce genre de politique aux États-Unis, par exemple, avec un mur mis en place entre la Californie, le Texas et le Mexique pour empêcher l'entrée de personnes venant d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale.
Donc effectivement, ce festival Migrants Scène, c'est l'occasion d'évaluer aussi les pratiques de notre pays sur comment on traite les gens qui migrent. Et d'abord, pourquoi migre-t-on ? Est-ce que chaque migrant a une problématique différente ?
Donc chaque personne a toujours une problématique différente lorsqu'elle décide de faire un choix aussi difficile que celui de quitter son pays. Mais il y a bien sûr des personnes qui quittent leur pays parce qu'elles vivent dans des conditions difficiles, dans des conditions économiques difficiles, et qu'elles espèrent avoir une vie meilleure dans un autre pays que le leur. Mais il y a également de nombreuses personnes qui quittent leur pays à la recherche d'une protection internationale, une protection que ne peut pas leur offrir leur pays ou que ne veut pas leur offrir leur pays. Des personnes qui subissent des persécutions dues à la guerre ou individuellement en raison de leur religion, de leurs convictions politiques ou autres.
Parmi les migrants qui sont en France, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a plus de réfugiés entre guillemets politiques que de réfugiés entre guillemets économiques.
Je ne peux pas répondre à cette question. Les personnes viennent souvent pour différentes considérations. Il y a, en tout cas, si Il y a une zone dans la région du Pas-de-Calais dont on parle régulièrement, qui est Calais, où on retrouve de nombreuses personnes qui veulent quitter le territoire français pour aller vers la Grande-Bretagne. Et si on prend cette zone-là, il y a des personnes qui viennent d'Érythrée, qui est un pays totalitaire, totalement fermé. Ces personnes sont bien entendu en recherche de protection internationale. Il y a des personnes qui viennent d'Afghanistan, dont on connaît la situation, des personnes qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, des personnes qui viennent du Soudan. Et on retrouve également des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, où les conditions de vie sont difficiles aussi dues aux politiques européennes menées dans ces pays-là.
Alors, c'est vrai qu'il y a certains pays qu'on a incités, voire qu'on a aidés à on va dire, se révolter ou se révolutionner. Et après, forcément, dans ces pays-là, des gens ont cherché à en sortir parce qu'il y a des problèmes locaux qui ont fait qu'ils ont cherché ailleurs, notamment dans les pays qui les ont aidés peut-être à s'émanciper, à chercher refuge. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement entre le fait de faire valoir la liberté dans certains pays et le fait de refuser leur accueil quand ces libertés sont menacées, voire leur vie ?
Ce qui est sûr, c'est que ces personnes qui vivaient dans des États, dans des dictatures où ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils pensaient, où ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, à partir du moment où les frontières se sont entrouvertes, parce qu'elles ne se sont pas ouvertes, elles se sont simplement entrouvertes, ils ont essayé de passer à travers les grillages et de venir voir ce qu'on leur fait miroiter à travers l'ensemble des médias, etc., aussi de voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté de la mer. Pour beaucoup des gens, pour beaucoup des Tunisiens qui sont venus, ils voulaient simplement voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, éventuellement travailler un peu et ensuite retourner dans leur pays. Le problème, c'est que nos politiques de fermeture pour entrer dans l'Union européenne, c'est également des politiques de fermeture pour en sortir, puisque les personnes savent qu'à partir du moment où elles en seraient ressorties, elles ne pourront plus y re-rentrer. Donc les personnes, une fois qu'elles sont à l'intérieur de l'Union européenne, elles préfèrent y rester plutôt que de retourner dans leur pays et d'avoir un va-et-vient entre leur pays et la France, comme nous, on pourrait également avoir lorsque des personnes vont travailler 1, 2, 3 ans en Afrique, puis reviennent, puis éventuellement repartent.
Avec ce problème très particulier de Calais, qui est une zone entre guillemets de transition, et dans laquelle les réfugiés se retrouvent acculés à la mer, à rester sur place et poser aussi certainement d'ailleurs des problèmes localement aux personnes qui habitent là.
C'est sûr que la situation à Calais est compliquée. Les personnes étrangères qui sont là, qui veulent partir, vivent dans une situation innommable. C'est vraiment très, très, très difficile. Et bien sûr, cette situation rejaillit sur la population locale. Cependant, il y a aussi beaucoup de solidarité à Calais. Les personnes... beaucoup de Calaisiens considèrent qu'il est inhumain de laisser les personnes vivre dans cette situation-là et essayent de trouver des solutions pour améliorer la situation.
Donc je suppose que le préfet de région est fortement concerné par cette réflexion à mener et puis des actions à mener pour trouver des solutions. Comment il travaille avec les associations. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entente ou de complémentarité entre l'action préfectorale et l'action militante ?
Alors, le préfet de région sur la situation de Calais, c'est surtout délégué au préfet du département, M. Denis Robin, le préfet du département du Pas-de-Calais, qui travaille avec les associations pour trouver des solutions. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a surtout des solutions qui sont amenées aux associations, qui sont des solutions à prendre ou à laisser. Et derrière, les solutions travaillées sur le terrain par les associations sont rarement prises en compte par les autorités.
Donc pour les associations, on peut donner une idée des associations en présence au-delà de la CIMADE sur le territoire Nord-Pas-de-Calais pour aider ces migrants ?
Donc, alors sur le territoire de Nord-Pas-de-Calais, il y a le Secours catholique qui travaille de manière étroite avec les migrants, le Secours populaire, il y a le collectif Sans-Papiers 59 qui travaille avec des personnes migrantes également. Sur le Calaisis, on trouve une myriade d'associations, Médecins du Monde, Secours catholique, France Terre d'Asile, et des petites associations locales qui font un travail humanitaire indispensable pour que les personnes puissent survivre sur le territoire. Il y a énormément d'associations qui vont faire de l'aide à l'accès aux droits, qui vont faire un travail plus humanitaire, un travail plus social, un travail d'accès aux soins, etc., pour aider les personnes migrantes sur notre territoire à pouvoir y vivre et à pouvoir s'y intégrer.
Il y a une concertation, une coordination entre ces associations ?
Donc les associations se parlent très régulièrement, essayent de voir quels sont les points sur lesquels on pourrait essayer d'obtenir des avancées politiques, essayent de s'orienter les personnes selon leurs différentes compétences, etc. Oui, c'est indispensable de travailler ensemble et ça se fait de manière normale.
Voilà, donc on va parler de ce festival Migrants Scène, donc organisé par la CIMAD. Vous le faites en tant que CIMAD ou en partenariat avec d'autres associations pour le coup ?
Le festival Migrants Scène est organisé par la CIMAD, mais bien sûr ça se fait avec un ensemble d'autres organisations qui, intéressées par la thématique, travaillent avec nous pour organiser les différents événements.
Voilà, on va retrouver donc nos autres invités de la CIMAD, Camille Six et Madeleine Géroudet. Camille Six, donc comment ça se présente cette édition 2014, ce festival Migrants Scène ?
Alors cette année, nous avons décidé de faire une édition vraiment festive, avec des événements très différents. Donc il y aura des expositions, des concerts, du théâtre. Aussi cette fameuse émission radio du 27 qu'on invitera tout le monde à écouter. En fait, on s'est rencontrés, il me semble, en décembre avec l'équipe Migrants Scène et on a essayé de réfléchir à ce qu'on voulait pour le Migrants Scène 2014, vu que c'est une édition qui a lieu, enfin ça a lieu tous les ans, et on s'est dit qu'on voulait que Migrants Scène 2014 soit principalement festif et participatif. Voilà, donc ça c'est vraiment les mots d'ordre. C'est pourquoi vous retrouverez dans la programmation des expositions qui ont été préparées avec des migrants de la région. Donc on pourra peut-être en parler plus en détail tout à l'heure, mais je vous invite vraiment à venir voir ces œuvres réalisées en participation avec la CIMAD et un artiste qui s'appelle Hugo Imhoff, qui nous a aidé à mettre en œuvre ces expositions.
Voilà, donc on retrouve une dimension nationale qui se décline en région. Est-ce qu'il y a une spécificité peut-être dans la programmation en région par rapport à la CIMAD ? Là, vous avez choisi de faire intervenir quel type de structure, notamment quel type d'artiste ?
Alors, nous avons une compagnie d'artistes qui s'appelle Étrange Miroir, qui propose un spectacle chaque année, enfin, aux Migrants Scène nationale. Donc, on les rencontrera le 27 novembre au Biplan. Nous avons participé, nous sommes associés avec des associations de la région. Et je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a énormément. Mais on a voulu faire quelque chose vraiment de. Comment expliquer Madeleine, aide-moi.
En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir le festival à vraiment des publics différenciés. Et c'est pour ça, notamment, que cette année, on a beaucoup ciblé le public jeune. Donc, avec des lectures qui s'adressent spécifiquement aux scolaires. Et également, pour les collégiens, les collégiens du collège Boris Vian, une intervention qui a lieu au sein du collège, donc un atelier autour de la sensibilisation aux questions contre les préjugés, en fait, qui sera mené en lien avec Démocratie et Courage, qui est une composante de la Fédération Léo Lagrange. Et à la suite de cet atelier de sensibilisation, on leur proposera d'aller au Biplan pour découvrir le spectacle dont Camille a parlé, donc Europe Endless. Donc l'idée, c'est bien d'ouvrir, de toucher différents publics et de ne pas être dans l'entre-soi, en fait. Donc d'aller vraiment proposer ça à des publics qui seraient pas forcément venus vers des événements de Migrants Scène. Et puis, donc, il y a aussi cette, cette idée qu'on a d'être présent dans la rue, c'est-à-dire d'être visible sur l'espace public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà engagé en fait ces derniers mois, et notamment au mois de mai 2014, on a mis en place une performance artistique engagée, donc qui s'est passée de la gare Lille-Flandre aux marges de l'Opéra. Donc les Lillois se souviendront peut-être d'avoir vu cette performance, donc qui était un moment de danse en fait, avec des danseurs qui ont déambulé de la gare Lille-Flandre aux marges de l'Opéra. Et l'idée, c'était à la fin de former une phrase en fait qui était l'étranger est un ami que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et donc, vraiment, être visible sur l'espace public, c'est une composante importante pour nous du Festival Migrants Scène, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup appuyé ici, en région Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, donc, des rendez-vous ont lieu dans des lieux différents. Ces lieux, est-ce qu'ils ont, au départ, une sensibilité par rapport à ce problème, ou ce sont déjà des lieux un peu militants, ou bien c'est des espaces que vous avez trouvés, qu'on vous a proposés pour réaliser votre festival?
Évidemment, on avait des contraintes de lieu, de temps, etc. Mais il y a des structures militantes. Il y a un gros événement le 18 novembre à l'Univers, qui est un cinéma associatif, qui est donc géré par un collectif d'associations et qui nous reçoit donc le 18 novembre. On ne l'a pas choisi par hasard. Sinon...
Le Biplan, aussi, on peut dire aussi que c'est un lieu militant.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, donc le public que vous visez, alors, bien sûr, vous avez des gens qui sont convaincus de la nécessité de trouver des solutions et de favoriser, d'aider, on va dire, la vie de ces gens qui sont en migrance. Mais il y a aussi ceux qui sont justement à l'opposé de ça. Est-ce qu'on peut encore convaincre des gens de rendre les choses plus humaines dans ce monde?
On espère. C'est le but du Festival Migrants Scène, c'est effectivement pas uniquement de cibler des publics déjà convaincus, sinon ça sert à rien, j'ai envie de dire. Le débat n'aura pas d'intérêt. Donc c'est aussi, j'y reviens parce que c'est important, c'est aussi pour ça qu'on cible un public jeune aussi, parce que c'est aussi par la jeunesse qu'on changera le monde, on espère, parce que là il y a vraiment un enjeu de sensibiliser dès le plus jeune âge à ces questions des préjugés, au regard qu'on porte sur les étrangers. Et vous parliez tout à l'heure des lieux peut-être un peu nouveaux, peut-être un peu moins militants. Le fait d'intervenir dans des bibliothèques, par exemple, c'est aussi un élément important. Les bibliothèques sont par définition des lieux ouverts, mais le fait de parler spécifiquement de ces questions à l'intérieur, c'est aussi intéressant, parce qu'on va toucher un autre public aussi.
Quelles sont les résistances donc de ces gens qui s'opposent à toute ouverture, à tout dialogue? Est-ce qu'on peut encore peser sur le cours des choses?
Ben bien sûr. Sinon, on peut abandonner tout de suite. Hein. Mais non, je pense qu'à la CIMAD, il y a énormément de gens qui sont très militants et qui ont vraiment envie de faire passer un message. Et l'action quotidienne qui est faite à la CIMAD dans le cadre des permanences, que ce soit le pré-accueil le matin, ou parce qu'on reçoit sans rendez-vous le matin, on reçoit sur rendez-vous l'après-midi, c'est certes de permettre à des personnes d'accéder simplement à leurs droits, au logement, à la santé, et aussi un titre de séjour éventuellement, mais c'est aussi de faire changer les choses. Au-delà du cas particulier de ces migrants qui rencontrent un problème, c'est de faire parler de ce qui se passe en France, et qui, je pense, touche chaque personne militante à la CIMAD.
Est-ce qu'un service civique obligatoire qui ferait passer systématiquement les jeunes dans une action, dans une association qui travaille sur ces problèmes-là, pourrait amener à changer le regard de ces jeunes sur les problèmes des gens et déjà se rendre compte de ces problèmes?
Sans trancher sur le service civique lui-même, ce qui est certain, c'est que être dans des permanences, rencontrer des étrangers lors de ces permanences, ça permet de vraiment enrichir son regard sur ces questions. C'est-à-dire que dès qu'on est dans des permanences, on rencontre une diversité de personnes. On se rend compte aussi qu'il y a comment dire, quand on regarde ça de loin, on peut avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne migrante, qui a toujours des problèmes de précarité, etc. Et en fait, quand on les rencontre dans les permanences, on découvre la diversité de ces personnes et le fait qu'elles sont pas, qu'elles ont toute une histoire et un enrichissement à nous apporter en fait. Et donc au-delà de la question du service civique, ce qui est certain, c'est que aller dans une permanence, rencontrer les étrangers par ce biais, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et quelqu'un qui serait condamné pour racisme, est-ce que faire un travail d'intérêt général dans une association comme les autres, les vôtres, ça peut amener une modification peut-être de la personne?
Je ne me suis jamais posé la question.
Ce serait une bonne question.
Je pense que ce qui est très important, ce dont parle le but aussi du festival et ce dont parle la CIMA, ce qui est important, c'est la rencontre. L'intégration dont parlait Nathanaël tout à l'heure, c'est une dynamique, c'est vraiment une rencontre des deux côtés et il n'y a pas de possibilité d'intégration s'il la faut sans cette rencontre. Et c'est pourquoi je pense aussi, ce service civique obligatoire, pourquoi pas obligatoire, bon, c'est un peu dommage, mais si ça peut permettre à des personnes de se dégager du temps et éventuellement d'avoir de quoi vivre pendant son temps-là, pourquoi pas. Mais
est-ce que les difficultés économiques ont tendance à durcir les choses ou ça n'a rien à voir? Est-ce que les gens actuellement sont plus en réserve par rapport à l'aide qu'ils pourraient fournir, notamment les financements, par exemple, de vos associations? Est-ce qu'ils donnent plus ou moins qu'avant?
Ce qui est sûr, c'est que les difficultés économiques ont certainement un impact psychologique sur les gens et de fermeture, mais ces politiques de fermeture, elles sont d'abord prônées par nos gouvernants qui veulent les utiliser de manière purement électoraliste. Ensuite, il y a nécessairement toujours des difficultés de financement. On est toujours à la recherche de différents financements. Les financeurs publics, les financements se tarissent petit à petit. Donc oui, on espère pouvoir trouver d'autres types de financements privés. Mais est-ce que la crise économique pose des difficultés à ce niveau-là? Je saurais dire.
Et les militants que vous avez, est-ce qu'ils ont besoin d'être renforcés par de nouvelles générations? Est-ce que vous sentez les jeunes plutôt favorables à vous renforcer ou pas?
On voit beaucoup de jeunes très favorables à venir renforcer les permanences. Sur l'île, on a là une dizaine de nouveaux bénévoles, tous des étudiants qui viennent intéressés par la question, qui veulent donner de leur temps sur ces questions-là. C'est sûr que c'est que travailler dans une permanence, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande une régularité, un engagement sur la durée, et que c'est parfois plus facile pour des personnes à la retraite que pour des personnes soit étudiantes, soit en activité. Donc on espère en tout cas pouvoir garder ces jeunes qui viennent sur le long terme, parce que c'est avec ce 109 qu'on peut aussi avoir de nouvelles idées et essayer de mieux promouvoir nos idées.
Est-ce que les jeunes qui sont d'origine étrangère ou dont les parents sont étrangers sont plus sensibles que d'autres à cette cause? Est-ce qu'ils sont prêts à davantage peut-être que d'autres à vous épauler?
Ce qui est sûr, c'est que les personnes qu'on a aidées, il y en a qui ont pu obtenir un titre de séjour à la suite d'informations, d'orientation ou d'un appui qu'ils ont obtenu lors des permanences. Il y en a assez peu qui vont derrière venir faire du bénévolat dans la structure, mais ça, c'est assez compréhensible. Les personnes, une fois qu'elles ont fait un pas, qu'elles ont réussi à rentrer, elles veulent souvent oublier les difficultés qu'elles ont eues et aller de l'avant. Ensuite, il y a des personnes qui sont de deuxième génération, immigrés de deuxième génération, troisième génération, et qui viennent dans nos permanences. Mais je ne sais pas s'il y en a plus ou moins. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité des personnes et pas nécessairement de leur parcours.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, l'émission Quoi de Neuf nous entraîne dans la problématique aujourd'hui de la migrance et ce festival donc Migrantscène qui justement est là pour éclairer peut-être les spectateurs et aussi aujourd'hui nos auditeurs sur les conditions de ces gens qui sont en transit, vers quoi on ne le sait pas toujours, et sur aussi cette forteresse Europe qui de plus en plus filtre et exclut. Alors, est-ce que ce film qui s'appelle D'un mur à l'autre de Berlin à Tsuta, symboliquement, veut aussi exprimer le fait que démolir un mur d'un côté pour le reconstruire d'un autre, est-ce que ça a un sens ou pas ?
Alors, je pense qu'il y a erreur, en fait, sur le film.
D'accord.
Le film qu'on a choisi pour le ciné-débat s'appelle « À contre-courant ». C'est un documentaire, justement, qui...
Parce que moi, je vois la programmation Maubeuge, film-débat,
ah oui, mais c'est à l'autre. Migrantscène est un événement national, mais aussi donc,
mais
Maubeuge, régional également.
Région.
Mais Maubeuge fera ça, il faut nous inviter aussi.
D'accord.
Mais en ce qui concerne la programmation de Lille, c'est le film À contre-courant. Et justement, ce film revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'on incite les jeunes à la mobilité internationale, etc. Mais que de notre côté, on ferme les frontières pour les personnes qui viendraient de pays non désirés, entre guillemets. Et ce film fait le parcours des migrants, mais à l'envers, c'est-à-dire en partant de l'Italie pour aller vers la Tunisie, l'Égypte, etc. Et c'est pourquoi il s'appelle À contre-courant, parce qu'il fait le chemin inverse des migrants, et ceci en bateau. Donc c'est ce que raconte ce documentaire que nous vous invitons à venir voir à l'Univers, mardi 18 novembre.
Oui, alors effectivement, il y a des lieux comme Lille, mais il y a aussi Maubeuge, Valenciennes qui sont mobilisés avec d'autres antennes de votre association, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui, dans la région, donc la région CIMAD, c'est le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Il y a des groupes locaux, donc comme je disais tout à l'heure, à Maubeuge, à Valenciennes, à Tourcoing, à Lille, à Arras, à Amiens et à Soissons. Et dans quasiment l'ensemble de ces groupes locaux, il y a un ou plusieurs événements Migrantscène qui sont organisés. Donc à Maubeuge, il y a ce ciné-débat autour de ce film Ceuta.
D'un mur à l'autre.
D'un mur à l'autre, Berlin-Ceuta. Et il y a également un ciné-débat à Valenciennes autour du film Forteresse Europe, Frontex Forteresse Europe. Et ce même film est présenté également à Soissons et à Tourcoing.
Voilà, donc votre programme, il est en ligne, là ?
Il est en ligne, donc d'un côté sur le site, sur notre Facebook. Madame, je vais peut-être te laisser...
Oui. Alors, il est en ligne donc, sur le site national, donc migrantscène.org. Et donc, la programmation est également accessible depuis notre page Facebook, donc facebook.com migrantscène Lille.
Est-ce que Facebook et ses réseaux sociaux résonnent justement sur ces problèmes de la migrance ?
Alors, je connais, enfin, personnellement, je ne vais pas tellement sur Facebook. Par contre, on a aussi un compte Twitter et effectivement, il y a beaucoup de débats et de discussions, hein, de communication autour de ces questions. Oui, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est un outil important pour sensibiliser justement de nouvelles personnes.
Mmh. Vous constatez sur les réseaux sociaux plutôt des points de vue favorable au traitement des problèmes des personnes ou plutôt pour limiter leur arrivée, on va dire.
Les réseaux sociaux, c'est un reflet de la société. On y trouve tous les propos qu'on peut entendre ailleurs, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Donc il est vrai qu'on retrouve des propos très négatifs sur les personnes étrangères, sur la migration en général, etc. Et on retrouve aussi des propos d'ouverture. Si on reprend l'exemple de Calais dont on a parlé tout à l'heure, il y avait une page Facebook ouverte par un groupe qui se fait appeler Sauvons Calais, donc un groupe de personnes d'extrême droite qui souhaitent que les migrants quittent la ville de Calais. Et en réaction à cette page Facebook où il y avait de nombreux messages très négatif. C'est ouvert une page qui s'est aujourd'hui transformée en association Calais Ouverture Humanité, où là justement de nombreux Calaisiens ont dit non, nous on refuse ces propos-là qu'on retrouve sur cette page Facebook, et on a d'autres choses à dire, on pense d'autres choses, on souhaite agir en solidarité avec ces personnes migrantes qui sont coincées ici à Calais, et on retrouve tous ces propos dans Facebook également.
Donc ce problème des migrants à Calais, c'est en région quelque chose d'assez important. On peut dire que c'est souvent dans l'actualité des médias. Hein. Est-ce que vous jugez que ces médias traitent correctement les problématiques, sinon les événements ?
Alors sur les médias ont nécessairement un prisme lié à l'actualité, à l'événement. Et c'est vrai que depuis quelques mois sur Calais, il y a de nombreux événements qui s'enchaînent. Les pouvoirs publics, d'ailleurs, souhaitent très certainement focaliser l'attention sur Calais pour que l'on oublie aussi les autres lieux où se trouvent ces personnes coincées. Il y a des personnes dans le Dunkerquois, il y a des personnes dans l'Audomarois, il y a des personnes coincées à Angres, à Noranfonte, et sur tout le littoral de la mer du Nord, de Dunkerque jusqu'à Ostende. Cette problématique de personnes qui traversent l'Europe en vue d'aller dans un endroit où ils pensent qu'ils auront plus de facilité à s'intégrer, on la retrouve un peu partout. Et les médias vont, oui, chercher l'événement, mais sans forcément essayer d'aller plus au fond des choses et de mieux comprendre la situation.
On est parfois étonné, enfin, du moins quand on revient de l'étranger, même d'ailleurs quand on revient de Chine, de la militarisation des espaces publics. On voit beaucoup de démonstrations de forces militaires, notamment dans les gares de la région, dans la gare. Et justement, est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve partout en Europe ou c'est spécifique à la région Nord-Pas-de-Calais, par exemple ?
Je ne pense pas que ce soit spécifique à la région Nord-Pas-de-Calais. Je crois que c'est, enfin, vraiment sur la militarisation, je pense que c'est vraiment lié à Vigipirate, etc. Mmh. Par contre, il y a quelques semaines, plusieurs gouvernements européens ont mené une action policière commune qui s'appelait Mos Maiorum, qui était dirigée par l'Italie. En vue de lutter contre l'immigration irrégulière, contre les réseaux de passeurs, etc. Et l'objectif était d'interpeller un maximum de personnes pour, d'un côté, lutter contre l'immigration irrégulière et éventuellement expulser ces personnes, mais aussi obtenir des informations sur les réseaux de passeurs, etc. Donc je n'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'il est advenu de cette opération, mais il y a, en tout cas, c'est sûr, une policiarisation, en tout cas, de l'espace public sur cette question-là. Mmh.
Et est-ce qu'on n'a pas actuellement une forme de raccourci, parfois, entre terrorisme et migrance ?
En tout cas, je pense que ce soit les autorités publiques ou les médias, il est parfois aisé de faire des raccourcis qui, pour le gouvernement ou les hommes politiques, peuvent être des raccourcis qu'ils estiment vont être vendeurs politiquement. Pour les médias, peut-être des raccourcis qui seront vendeurs au niveau de la vente de leurs journaux. Mais oui, certains raccourcis peuvent pousser les personnes à penser cela. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non de la part des personnes qui font ces raccourcis, mais c'est dangereux.
Voilà donc, en ce qui concerne votre association, la CIMADE, quels sont les besoins immédiats auxquels vous avez à faire face et pour lesquels vous souhaiteriez des soutiens, des aides matérielles, pratiques? Qu'est-ce qu'on pourrait
La CIMAD a surtout besoin de personnes bénévoles, militantes, qui veulent donner de leur temps sur les permanences juridiques, sur l'ensemble de la région. Je vais encore une fois répéter les villes, mais c'est important, si les personnes nous écoutent ailleurs, qu'à Lille, à Valenciennes, à Maubeuge, à Tourcoing, à Lille, à Arras, on a vraiment besoin de nouveaux bénévoles pour remettre en marche la permanence qui, pour le moment, est arrêtée par manque de bénévoles, justement, également à Amiens et à Soissons. On a également besoin de bénévoles sur les cours de français langue étrangère. Et sur Lille, il y a prochainement une nouvelle permanence autour de l'accès à la protection sociale qui ouvrira en 2015. Et donc, si des personnes sont intéressées par ces thématiques, elles peuvent nous rejoindre pour y travailler.
Alors, vous parliez de permanence juridique. Est-ce que c'est compliqué de comprendre les mécanismes, justement, qui régulent ou qui règlent, sinon règlent, les problèmes de migrants en région ? Est-ce qu'il y a des textes très compliqués, une armada, une panoplie de...
Ce qui est sûr, c'est que le droit des étrangers s'est complexifié depuis une trentaine d'années, depuis les années 80, avec de plus en plus de textes, de nouvelles lois, de nouveaux décrets, des circulaires qui rendent la compréhension de ce droit compliqué pour des personnes néophytes. C'est un droit très touffu. Et donc, les permanences juridiques sont indispensables pour que des personnes qui, par ailleurs, ne parlent pas forcément très bien français, ne connaissent pas parfaitement tous les rouages de notre fonctionnement administratif, puissent réussir à naviguer dans ces textes et à essayer de trouver une voie en vue d'une éventuelle régularisation.
Il arrive que vous fassiez appel à des avocats ?
On fait très régulièrement appel à des avocats. On est en contact régulier avec de nombreux avocats lillois spécialisés sur la question du droit des étrangers. Les personnes qui vont demander un titre de séjour, demander l'asile, etc., peuvent se voir opposer des refus qui ne sont pas toujours légaux. Et donc, on aide ces personnes à contester ces décisions et on les aide à le faire en lien avec les avocats.
Alors souvent, les personnes qui sont en situation difficile sont un peu enclines à aller à la rencontre d'autres personnes. Elles se cachent plutôt que de trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez leur conseiller de venir à vos permanences si nécessaire ?
Ah ben c'est, oui, je leur propose de venir à ces permanences. C'est vraiment un moment pour rencontrer des personnes. Les permanences, c'est des permanences juridiques, mais c'est aussi souvent un moment d'écoute. Les bénévoles vont prendre le temps qu'il faut pour laisser la personne expliquer sa situation, raconter ce qu'elle vit, et beaucoup de personnes nous disent que, outre le fait qu'elles ont pu mieux comprendre comment orienter leur demande de titre de séjour ou autre, ce qui a été important pour elles, c'est de pouvoir expliquer la situation dans laquelle elles sont et être entendues par quelqu'un prêt à les écouter.
Donc votre permanence, elle se situe où, à Lille ?
Donc à Lille, nous sommes situés au 66 rue des Kermes, c'est métro Montebello, à côté du boulevard Montebello.
Et vous avez donc une permanence ouverte quand ?
Donc nous sommes ouverts le mardi, mercredi, jeudi, le matin sans rendez-vous et le mercredi sur rendez-vous.
Et pour les rendez-vous, on les prend comment ?
Donc on peut les prendre par téléphone au...
03 20 54 35 14.
Voilà, donc on va donner rendez-vous au public convaincu, mais aussi à celui qui pourrait l'être, qui ne l'est pas encore, de venir vous rejoindre, notamment lors de vos manifestations prévues. On va rappeler les dates, peut-être, Madeleine ?
Alors oui, les dates. Donc pour les expositions, il y a une exposition, donc Dis-moi ce que tu vois, qui sera du 14 au 17 novembre, puis du 21 au 23 novembre à la Maison Folie Oisem. Et donc il sera également au Cinéma L'Univers le 18 novembre, donc pour la soirée Projection Débat, qui sera aussi l'occasion de faire le vernissage de cette exposition. L'autre exposition, donc Empreinte, c'est la même chose, Cinéma L'Univers le 18 novembre à 18h30. Et puis ensuite, elle sera exposée dans un bar qui s'appelle le Macondo. Donc, autre date, projection, débat donc, au cinéma à l'univers, donc 18 novembre, 18h30. Le même jour, à 19h, on organise au Bateau Livre une rencontre avec Yves Pinguilly et Adrienne Yabouza, qui sont deux écrivains qui ont écrit à la fois séparément et ensemble beaucoup de romans qui parlent notamment de l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi des questions de migration. Deux ateliers de lecture, donc lecture à voix haute autour de la migration et des migrants à la médiathèque du Faubourg de Béthune, le 19 novembre à 14h. Et également un atelier donc, au Café des Enfants, donc là des lectures en son, donc la mise en son d'histoires autour de qui permettra de donner vie à des parcours de migrants. Donc Café des Enfants, 29 novembre à 17h. Ensuite, la programmation de spectacles. Donc Europe Endless, c'est au Biplan le 27 novembre à 20h30, et ça sera suivi donc du débat retransmis en direct sur Radio Boomerang et Radio Campus le 28 novembre à 19h au Bateau Livre, un autre spectacle qui est cette fois un conte musical qui s'appelle L'Opale et le Safran par la compagnie Le Petit Orphéon, et tout ça finira par un temps de clôture festif. Et pour ce temps de clôture, on donne rendez-vous le 30 novembre à 11h30 au croisement de la rue Jules Guesde et la rue des Sarrasins. Donc c'est un temps de clôture qu'on organise en même temps que le festival 3 jours et 2 nuits pour la Palestine. Et ça finira par un repas ensemble au Concorde, à 12h30.
Voilà, donc on peut aussi avoir une idée de ce qui se passe en région et en France sur le site festivalmigrantscène.org et aussi sur vos sites respectifs, bien sûr, en local. Merci pour tout et donc rendez-vous pour ce qui nous concerne pour ce débat qui va suivre cette pièce de théâtre que nous irons voir au Biplan. Et voilà, restez à l'écoute de Radio Campus pour en savoir plus. Merci à tous et bonne Merci. Continuation.
Dans le cadre du festival Migrants Scène, la CIMAD vous donne rendez-vous le jeudi 27 novembre à 20h30 au Biplan de Lille pour le spectacle Europe Endless de la compagnie Étrange Miroir. Un spectacle suivi d'un débat sur les politiques européennes d'immigration. Un débat retransmis en direct sur Radio Campus 106.6 FM et Radio Boomerang 89.7 FM de 21h30 à 23h. Pour plus d'infos, la page facebook.com/migrantscène Lille ou le site internet festivalmigrantscène.org.